Salut à toutes et à tous, c'est Julie, il est midi 15 sur le 94 FM, vous écoutez 3 en 1.
C'est beau, c'est agréable, moi c'est ma balade phare.
Quant à vous aujourd'hui, notre périple en Bretagne, c'est une grande région française, c'est une région qui comporte combien de départements, monsieur ?
Il y a les villages.
Qui dit qu'on n'a pas de déboire ?
L'agriculture est en train de crever, sincèrement, toute production confondue, toute filière.
De venir de Paris, de Lyon, de Bordeaux, tout le monde sait qu'à Rennes, il se passe quelque chose.
Bienvenue dans 3 en 1, c'est votre émission d'actualité locale de Canal B, le lundi et le mercredi, de midi 15 à midi 45, et en rediff les mardis et jeudis à 8h15. Aujourd'hui, c'est un sommaire en intimiste avec Manon qui a produit les deux formats de cette édition. En première partie, tu t'es entretenue avec le collectif Territoires d'Outre-Rennes.
Oui, j'ai pu rencontrer Brieux et Eden de l'association Territoires d'Outre-Rennes, comme tu l'as dit, de Sciences Po Rennes, pour parler des difficultés d'intégration auxquelles font face les étudiants ultramarins.
Et ensuite, tu t'es rendue au centre Loisirs Pluriels qui favorise la mixité sociale entre enfants porteurs d'handicap et enfants valides.
Oui, je me suis entretenue avec Chloé, la directrice du centre pour adolescents, et un parent, Pascal Coeurboeuf, qui est à l'origine d'un projet, donc les Pépites des Outre-Rennes, monde, qui a pour but de changer le regard sur le handicap.
Merci Manon. Lola, tu es partie du rapport annuel sur l'état du sexisme en France qui est tombé le mercredi 21 janvier pour nous parler du sexisme à l'heure d'aujourd'hui. Dans ce rapport, le HCE, Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes, nous fait comprendre que la misogynie s'adapte à son époque et c'est pas foufou.
Et ouais, c'est le cas de le dire, sans surprise, le sexisme est en hausse en France et il est particulièrement marqué par la montée d'un type de sexisme, le sexisme paternaliste. Alors qu'est-ce que c'est le sexisme paternaliste ? C'est tout simple, ce sont tous ces mecs qui nous prennent pour des petites bêtes fragiles et démunies qu'il faut constamment aider et paterner parce que oui, nous les femmes avons besoin d'une armée de papas autour de nous pour pouvoir tenir debout. Tous ces « attends, je vais faire, t'inquiète, c'est trop lourd pour toi » alors que le mec a 50 piges et que toi tu te tues à la salle tous les dimanches, alors non Patrick, je peux porter mon kayak toute seule, comme une grande.
Et le rapport estime qu'en France, 7,5 millions d'hommes et 5 millions de femmes véhiculent des propos et idées sexistes paternalistes. Les hommes sont majoritaires, mais les femmes véhiculent aussi ces normes. Mais c'est possible ça ?
Et ouais, et c'est ça le plus flippant, c'est un peu comparable aux personnes issues de l'immigration qui votent pour le RN, genre qu'est-ce que vous avez pas compris ? Grosse balle contre votre camp en fait. Non plus sérieusement, ces chiffres révèlent en réalité que ce sexisme est tellement créé dans notre société que les femmes elles-mêmes l'ont absorbé. En même temps, ce qu'indique le rapport, c'est que ce sexisme se développe plus particulièrement au sein du cercle intime et s'inscrit plus largement dans une vision encore fortement patriarcale de la famille où les attentes genrées demeurent structurantes. Alors, pas facile de s'extraire de ce schéma quand papa, papy, tonton et même maman pensent que tu devrais essayer le yoga au lieu de sauter en parachute.
Et le rapport parle aussi de la montée du sexisme dit hostile en France et plus particulièrement sur les réseaux sociaux.
Ouais, et ça c'est encore moins fun. Le sexisme hostile, c'est la version violente du sexisme paternaliste. Insultes, apologie de la violence envers les femmes, etc. La montée du masculinisme inquiète parce que maintenant les masculinistes se regroupent et se confortent dans leur réalité où la femme et le féminisme forment la menace suprême de la domination des hommes et de leur existence. Sur les réseaux sociaux, des influenceurs masculins proposent des formations et des vidéos où ils promettent à leurs abonnés hommes de retrouver leur virilité perdue et de devenir des vrais hommes qui, par conséquent, dominent la femme. Cette idéologie peut même parfois mener à justifier la culture du viol et même le meurtre, comme nous le rappelle l'affaire Michael Filetas, cet influenceur masculin qui avait poignardé son ex en 2017 parce qu'elle avait osé le quitter. En bref, désormais, le sexisme tue et du côté des jeunes de plus de 15 ans, 17% adhèrent au sexisme hostile, soit près de 10 millions de personnes en France, selon le rapport. En gros, tout va bien. Comme le dit ce vieux gars sur les réseaux qui est influenceur mascu, il y a trois types de femmes, les brebis, les louves et les chiennes. Celle qui est à protéger, celle qui est indomptable et celle qui est à abattre. Et après, ça s'étonne d'être seule à 30 ans. Mais c'est nous le problème, bien évidemment. En tout cas, ce qui relie les mascus, les incels et le sexisme hostile, c'est qu'ils n'aiment assurément pas les femmes. Par contre, ils aiment leur virilité abusive à croire que c'est peut-être elle, la femme à abattre.
Donc en gros là, tu me parles de mecs qui adorent leurs gros muscles, qui s'entraînent torse nu dans une forêt à l'abri des regards et qui en plus n'aiment pas les femmes.
Ouais ouais, t'as tout compris.
Tu sais où ils seront en juin ?
Ah ouais, non, pas du tout, non.
Non, parce que je sais qu'il y a une super marche pour les gens qui sont hyper fiers.
Ah
et
ouais,
ouais, bah avec leur ego et tout, je pense que c'est le moment quoi.
Ah bah c'est super sympa, on leur passe le mot quoi.
Et bah merci Lola, en tout cas c'est trop sympa pour eux et puis pour leur rendre honneur, on se repasse un petit classique, Lady Gaga, Born This Way. So hold your head up, girl, and you'll go far. There's a mirror to say I'm beautiful in my way. Just I make no mistakes. I'm on the right track, baby. I was born this way. Don't have yourself in regret. Just love yourself instead. I'm on the right track, baby. I was born this way. Born this way. So there ain't no other way. Baby, I was born this way. Just be a queen, don't be a drag, just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Give yourself prudence and love your friends. Subway can rejoice your truth. In the religion of the insecure, I must be myself, respect my youth. A different law is not a sin. Believe capital H, I am. Écoutez Born This Way de Lady Gaga sur le 94 FM et tout de suite c'est Manon qui prend le micro pour l'interview du jour avec deux étudiants de l'association Outre-Rennes.
Alors que les demandes sur les plateformes Parcoursup ou Mon Master débutent pour l'une ou se rapprochent pour l'autre, des milliers d'étudiants ultramarins et d'étudiantes ultramarines se préparent pour un grand changement de vie. En effet, actuellement, ce sont 38 000 étudiants et étudiantes des Outre-mer qui suivent des études supérieures dans l'Hexagone, dont 6 000 nouveaux et nouvelles qui sont arrivés en début d'année universitaire en septembre dernier. Pour ces étudiants et étudiantes, ce long voyage a souvent de lourdes conséquences personnelles et parfois même familiales. Pour en parler aujourd'hui, je suis avec Brieux et Eden, deux étudiants qui sont tous deux coprésidents de l'association Territoire d'Outre-Rennes au sein de Sciences Po Rennes, une association qui a pour vocation de mettre en lumière la richesse et la diversité des cultures des territoires d'outre-mer français, tout en sensibilisant à leurs actualités politiques, sociales et économiques. Bonjour Eden, bonjour Brieux.
Bonjour.
Bonjour.
Chaque année, des milliers d'étudiants et étudiantes quittent les Outre-mer pour venir étudier en métropole. Est-ce qu'on peut dire que pour beaucoup d'entre eux et d'entre elles, cette décision ressemble plus à une obligation qu'à un choix ?
Donc la mobilité vers la métropole, c'est encouragé depuis longtemps parce qu'il y a beaucoup plus de formations en Hexagone. Il y a beaucoup plus de filières spécialisées, donc notamment en ingénierie, dans les grandes écoles. L'offre, elle est beaucoup plus variée alors que dans les territoires ultramarins, on va être face à un manque de formation ou alors à des places qui sont assez restreintes. Donc forcément, on est obligé de partir en Hexagone. Il y a aussi le principe de continuité territoriale qui fait que, en fait, c'est encouragé depuis longtemps et c'est un peu une étape de passage dans la scolarité d'un étudiant ultramarin de passer par l'Hexagone.
Est-ce que tu peux expliquer ce qu'est la continuité territoriale ?
Alors, c'est grosso modo, c'est le principe d'aider à pallier les différences entre les territoires et notamment ultramarins, parce que du fait de la distance, il y a plein de choses auxquelles on n'a pas accès, ou alors qui sont présentes qu'en Hexagone, tout simplement. Donc ça passe par des aides, des subventions à la mobilité. Il y a notamment la DOM qui s'occupe d'aider les étudiants à s'installer, et ça peut prendre en charge le billet d'avion, par exemple.
La DOM, pour information, c'est l'Agence de l'Outre-mer pour la mobilité.
Il y a un élément d'autant plus frustrant, c'est que le peu d'offres qui est présent parfois dans les territoires ultramarins sont aussi convoitées par des étudiants de l'Hexagone. Par exemple, on peut citer à la Réunion, par exemple, il y a des offres universitaires sur la recherche de biologie marine, etc. Des demandes de stage. Et on a beaucoup d'étudiants hexagonaux qui postulent aussi pour ces offres-là. Par exemple, de stage, je sais pas, il y a des kinés ou etc. qui veulent partir et qui se dirigent vers des territoires ultramarins, ce qui réduit encore plus le champ de choix et de décision des étudiants ultramarins. Et c'est pour ça qu'ils sont aussi obligés de partir, parce qu'il y a peu d'offres dans leur territoire, et le peu d'offres qui est présente est aussi demandé par des hexagonaux, donc c'est assez paradoxal.
Quand on quitte les Outre-mer pour venir étudier en France métropolitaine, quelles sont les principales difficultés auxquelles on peut faire face ?
Comme tu l'as dit dans l'introduction, il y a tout d'abord l'éloignement de la famille. Donc ça, c'est lié au coût du billet d'avion, tout simplement. Par exemple, pour les fêtes, si on n'a pas les moyens de se payer un billet qui tourne autour des 1000 euros, c'est compliqué d'être avec sa famille. Il y a aussi le fait de se sentir dépaysé parce qu'on arrive dans un environnement froid, impersonnel, dans des grandes villes pour la plupart, ou alors des villes qui sont au contraire où il y a rien à faire.
Dans les difficultés qu'on nous a présenté, c'était beaucoup le mode de vie, le changement du rapport à l'autre. Donc il y a toutes ces difficultés-là financières. Il y a aussi énormément de pression, parce que ça va avec justement l'aspect financier. Beaucoup de familles dépensent des milliers d'euros pour le logement, les billets d'avion, etc. Et du coup, les étudiants qui s'engagent à l'étudier en Hexagone se sentent un peu responsables de ça et se forcent parfois à aller dans des filières qui ne leur plaisent pas, pour continuer et pour pas décevoir tout cet engagement qui a été fait par les parents. Et enfin, le dernier aspect un peu très compliqué, je pense que c'est le plus important, ça reste tout ce qui est racisme, discrimination. Le plus fréquent, c'est surtout les accents, par exemple. Quand on a une manière de parler, un accent qui va avec son île ou son territoire, et qu'on arrive en hexagone où il y a un langage plus formel, ça peut être plus compliqué. Et oui, toute la méconnaissance, en fait, des territoires qui peuvent être négatifs pour les étudiants qui arrivent.
On sait que depuis de nombreuses années, l'accès au logement chez les étudiants et étudiantes est de plus en plus complexe. Qu'est-ce qui fait qu'il l'est d'autant plus chez les ultramarins venant étudier en métropole ?
Ça peut être le fait de ne pas avoir de contact sur place, le fait d'arriver entre deux, où déjà il faut qu'on s'adapte, il faut aussi qu'on cherche un logement, il faut qu'on évite les arnaques, parce que ça, c'est très souvent... c'est très courant aussi. Et au niveau du logement, forcément, les prix sont très élevés, surtout quand on est étudiant. Et quand on doit prendre en charge son déménagement, le fait d'être seul aussi, parce que forcément, quand on arrive, on n'a pas toujours quelqu'un de sa famille pour nous aider. Et le fait de devoir assumer tout ça tout seul, ça peut représenter une assez grosse charge mentale pour des gens qui sont d'autant plus jeunes, parce que quand on entre en études supérieures, en général, on a entre 17 et 19 ans. Donc voilà, ça représente une grosse étape, je trouve, dans la vie des étudiants ultramarins. Et il y a aussi la question de la santé mentale, tout court. De devoir se débrouiller tout seul, de devoir être loin de sa famille, de devoir réussir parce qu'on a des espérances de notre famille derrière. Enfin voilà, ça représente un gros pas.
Et ce qui nous a d'autant plus heurté un peu sur cette question du logement, c'est que, par exemple, on parle à titre d'étudiant à Sciences Po Rennes. Il y a énormément d'étudiants internationaux qui, eux aussi, en fait, ont les mêmes aspects de recherche d'appart à distance, etc. Et il y a énormément de dispositifs qui sont mis en place pour ces étudiants, des associations qui les aident à trouver des logements, les mettre en contact avec des agences, etc. Et ce travail n'est pas du tout fait pour les étudiants ultramarins qui, eux, sont juste considérés comme des étudiants normaux. Ce qui fait qu'il y a un décalage, alors pourtant, ces étudiants sont un peu dans la même situation. Mais il y a une différence de traitement, ce qui fait que ça a d'autant plus motivé l'asso à justement essayer d'avoir les contacts en avance des étudiants pour pouvoir faire un peu ce travail-là de recherche plus proche du terrain.
Le but de l'association, ce serait à terme de prendre les devants de notre école et d'aller voir directement les étudiants ultramarins, de leur dire que s'ils ont besoin d'aide, nous on est là et qu'on peut les aider à faire des démarches, qu'on peut les mettre en lien avec des groupes Facebook, des groupes d'étudiants, là où il y a du logement. Et parce que de toute façon, ce ne sera pas fait par l'administration. Donc autant qu'on soit là pour les aider.
Ce matin, en me réveillant. ciel. J'ai vu un petit carré bleu, mais derrière le rideau, j'en voyais si peu. J'ai levé le rideau et j'ai cherché le petit carré bleu.
Carré bleu de Tapala sur Canal B et on revient à la deuxième partie de l'interview du jour avec Manon et l'association Outre-Rennes pour parler des problématiques d'intégration pour les étudiants ultramarins.
Est-ce que contrairement par exemple à des étudiantes ou étudiants en échange universitaire, celles et ceux qui viennent des Outre-mer font plus face à la précarité ou en tout cas aux stéréotypes de précarité et aux discriminations raciales?
Forcément, il y a la question financière est différente parce que la plupart du temps, les étudiants internationaux, c'est un choix de pouvoir, ils ont la chance de pouvoir voyager, de pouvoir partir dans un autre pays où parfois c'est eux qui sont motivés par ça. Ou alors, s'il y a une obligation, il y a souvent des aides très précises. Alors que les étudiants ultramarins, comme on l'a dit, c'est souvent, c'est pas par choix, c'est par obligation, c'est par nécessité pour avancer scolairement, etc. Donc forcément, il y a une différence de budget d'un point de vue consentement, entre guillemets, au voyage ou à l'étude dans un autre territoire. Et au niveau discrimination, c'est à peu près la même chose parce que les étudiants étrangers, on sait que c'est des étudiants internationaux, donc il y a un processus d'accueil, d'échange qui est très différent, alors que les étudiants ultramarins qui, eux, doivent s'installer plus durablement, parce que c'est aussi souvent pour un cursus scolaire entier, pas que pour un an ou six mois. Donc la mise en intégration est encore plus dure pour les étudiants ultramarins que pour les étudiants internationaux.
Et après, pour tout ce qui est discrimination, je pense que ça passe beaucoup par des scènes du quotidien. Donc c'est pas... mais c'est souvent répété. Ça va être des blagues qui sont racistes, clairement, et qui nous font pas rire. Mais ça repose sur beaucoup de stéréotypes. Après, il va y avoir tout ce qui est en rapport avec le peu de ce qu'on connaît de la culture des territoires ultramarins. Et voilà, c'est un peu redondant, c'est un peu fatigant.
Donc face aux difficultés qu'on vient d'évoquer, il y a beaucoup d'étudiants qui peuvent se retrouver seuls parfois. Et c'est précisément là que votre association intervient. C'est à partir de ces différents constats qu'est née l'association Territoires d'Outre-Rennes, dont vous êtes coprésidents, Brieux et Eden. Territoires d'Outre-Rennes, c'est quoi exactement?
C'est une association qui est vraiment née d'un constat, le manque de visibilité des territoires ultramarins, tant dans nos échanges en tant qu'étudiants, mais aussi dans les cours. On fait beaucoup de cours de droit administratif, d'histoire, etc. Et pourtant, quand on demande à tous les étudiants, il y en a très peu qui savent placer les territoires sur une carte, qui connaissent les drapeaux, qui connaissent un peu l'histoire, et encore moins qui connaissent les étudiants, parce que par promo, il y en a quand même... en tout cas, je parle pour les étudiants de Sciences Po. Après, je pense que c'est un peu pareil pour Rennes 1, Rennes 2. Il y en a quand même à chaque fois une dizaine par an. Et pourtant, ils sont totalement invisibilisés. Donc, nous, on essaye justement de faire le travail un peu historique pour expliquer l'histoire, expliquer un peu les caractéristiques de chaque territoire, leur drapeau, leur histoire, leur capitale, etc. Et de mettre en avant ces étudiants-là. Par exemple, on a commencé sur Insta à faire un peu des posts où on interview chaque étudiant ultramarin pour qu'ils se présentent, qu'ils nous disent un peu d'où ils viennent, pour que ce soit plus facile de les identifier et peut-être mieux les intégrer. Donc c'est tout un travail de à la fois historique, pédagogique, qu'on essaye de faire, tout en essayant de jouer à la limite du sérieux avec des conférences, des projets importants, mais aussi pour essayer de mobiliser le plus de personnes, un aspect un peu plus léger où on essaie de rassembler les gens. On a fait plusieurs soirées, par exemple, sur la thématique ultramarine. On essaie de faire un peu des expositions.
Est-ce qu'il y a aussi un peu d'accompagnement d'étudiants qui viennent d'arriver, par exemple, sur un point de vue administratif ?
À terme, comme je l'ai dit, on aimerait bien faire un peu d'accompagnement pour tout ce qui est logement, installation, etc. Après, c'est toujours bien aussi de venir, de se présenter, de se dire d'où on vient. Enfin, c'est toujours fun de voir qu'on peut être compris, de voir qu'on peut se faire des amis, parce que forcément, plus on se ressemble, plus on a envie de créer du lien. Donc ça, c'est quand même assez cool. Et après, nous, cette année, on a mis en place un PUI, donc avec un lycée à Mayotte. Donc c'est un intervenant qui était venu lors de la première édition de notre festival, qui s'occupe d'une classe de première et de terminale. Et donc nous, on a mis en place un système d'échange, surtout de conseils pour les jeunes, pour qu'ils puissent nous poser des questions sur justement comment ça se passe Parcoursup, comment ça se passe les concours d'entrée aux grandes écoles, etc.
Donc le PUI, pour information, c'est le programme d'études intégrées qui est destiné aux élèves en situation de défaveur, que ce soit pour des raisons économiques, sociales, familiales, culturelles, de handicap ou encore territoriales.
Justement, c'est un accompagnement sur toute l'année, souvent l'année décisive de la terminale, où chaque étudiant du lycée de Mayotte puisse nous poser des questions sur le concours, sur la vie à Rennes ou en Hexagone plus précisément, pour pouvoir un peu les aider à se projeter et justement anticiper tous les problèmes qui peuvent arriver. Donc forcément, oui, c'est un peu de l'accueil et de l'accompagnement qu'on essaye de faire.
Et le PUI, ça existait déjà avant, c'est dans le cadre de notre école, et il y a des lycées dans toute la France et dans les territoires ultramarins, mais il y en a beaucoup moins qui sont en partenariat avec Rennes en tout cas.
Pourquoi est-ce que cet accompagnement, il repose aujourd'hui sur des associations étudiantes et non pas vraiment sur des dispositifs institutionnels à l'échelle nationale ?
Je pense qu'il y a un peu un tabou quand même sur les étudiants ultramarins et les territoires ultramarins en général. C'est dans la globalité, là on parle du niveau étudiant, mais ça regroupe tous les niveaux. Il y a quand même une différence de traitement qui est assez claire entre les hexagonaux et les ultramarins. Et donc, ce serait un travail beaucoup plus profond de pouvoir essayer de mettre de l'équilibre dans ça et de pouvoir prendre plus soin des ultramarins, des étudiants ultramarins. Ce serait un travail beaucoup plus de fond et on pourrait, je pense, ce serait plus compliqué de mettre en place une égalité dans le sens où ça demande un travail de recherche et de basculement de toutes les institutions françaises pour qu'il y ait une égalité de traitement. Et donc, je pense que ça prend énormément de temps. Et il y a aussi, on essaie de l'expliquer, mais un passé colonial qui est un peu proche et qui, je pense, n'a pas encore était totalement guéri pour pouvoir justement mettre en place des situations beaucoup plus égalitaires et donc des situations universitaires égalitaires.
Mais est-ce qu'il y a quand même des aides ?
Oui, quand même, il y a quelques aides pour l'avion. On peut faire des demandes à son département ou à sa région. Mais souvent, il y a c'est des démarches administratives en plus, quoi. C'est vraiment des demandes avec des documents un peu précis à fournir. Mais il y a quand même des aides.
Par exemple, au niveau des aides, en début d'année scolaire, ça a été voté. Il y a eu une aide au retour pour les étudiants ultramarins. Il y a beaucoup d'aides qui commencent à se développer, mais c'est pareil, il y a quand même un écart entre ce qui est promis, les budgets alloués et la réalité. Et donc, en fait, c'est ça, c'est qu'il faut mettre en place les choses, mais il faut les tenir. Il faut qu'il y ait des agents qui permettent d'agir en tant que relais. Et souvent, c'est le problème, c'est qu'on met en place, mais au final, c'est des coquilles vides parfois. Voilà. Le but, c'est aussi de mettre des gens, enfin des ultramarins, à des postes clés qui peuvent comprendre. Et à partir du moment où on comprend la situation et on la connaît, forcément qu'on peut agir au mieux. Et que si on se sent concerné, on agira forcément au mieux.
2026 s'annonce chargé pour Territoires d'Outre-Rennes, puisque vous allez organiser votre deuxième édition du festival Outre-Lumière. Ce sera le 26 mars prochain. Parlez-nous un peu de la programmation.
Alors du coup, ce sera un festival sur toute la journée, le 26 mars. Donc ce sera un festival avec deux étapes. L'après-midi, la journée, ce sera de 11h à 19h dans l'enceinte de Sciences Po, mais ouvert au public, où on accueillera des artistes qui feront du chant, de la danse, des ateliers un peu découvertes, des buffets avec de la nourriture ultramarine, et plein d'activités. Et on aura aussi une partie nuit de 21h à minuit, une heure du matin, à la maison de quartier de Villejean. Donc pareil, ouvert à tous, et où on fera produire plusieurs artistes pour des concerts, etc.
En journée, on pourra avoir aussi des tables rondes, des conférences sur notamment le sujet de venir faire ses études en Hexagone. Et au niveau de la soirée, si les gens nous écoutent actuellement, des groupes, des artistes, etc., n'hésitez pas à nous contacter sur Insta ou par mail, parce qu'on est toujours à la recherche de groupes locaux, surtout. Et voilà, donc si vous avez un projet à nous faire découvrir, n'hésitez pas, et on vous attend nombreux le 26 mars.
Eh bien merci Brieux et Eden, je le rappelle, vous êtes coprésident de l'association Territoires d'Outre-Rennes. Merci d'être venu dans les studios de Canal B.
Merci à vous.
Ouais, merci beaucoup.
Et tout de suite, direction le Centre pour enfants loisirs pluriels à la découverte des impertinentes et authentiques phrases des enfants porteurs de handicap. N'est-ce pas Manon ?
Exactement Julie, je me suis rendue au Centre loisirs pluriels pour enfants, adapté aux enfants porteurs de handicap, mais aussi aux enfants valides. Il existe un autre centre loisirs pluriels à Rennes pour adolescents. Ces centres, ils accueillent donc des enfants, adolescents et adolescentes porteurs et porteuses de troubles moteurs ou cognitifs, parfois verbaux ou non-verbaux. Le centre loisirs pluriel a d'ailleurs un double objectif, le droit au loisir pour les enfants et le droit au répit pour les parents.
Et t'as dit que le centre est adapté aux enfants porteurs de handicap, mais aussi aux enfants valides, c'est ça ?
Oui, le centre loisirs pluriel permet de favoriser la mixité entre enfants porteurs de handicap et enfants valides. C'est le cas du centre pour enfants où des fratries entières peuvent venir parfois.
Et du côté du centre de loisirs pour les adolescents ?
Alors c'est différent car la tranche d'âge en question, donc les 11-18 ans, se rend moins dans les centres de loisirs. Alors au lieu de faire venir la mixité dans le centre, ils et elles vont vers cette mixité avec des interventions dans des maisons de quartier, comme l'explique Chloé, directrice du centre loisirs pluriel pour adolescents de Rennes.
Alors ce qui change du coup la différence entre les enfants et les adolescents du centre ado, c'est plus le local. Déjà on fait à manger nous-mêmes, on a une cuisine équipée. On fait aussi beaucoup de sorties, donc en lien avec, je sais pas, par exemple le trampoline park, on va plus à la piscine. On fait beaucoup plus de rencontres avec les autres espaces jeunes pour vraiment créer plus de mixité. L'idée c'est de partir du coup sur des lieux avec du monde, vraiment se montrer et partager des activités avec d'autres jeunes valides pour vraiment créer cette mixité. Ce qui est assez compliqué de les accueillir au local pour l'instant.
Cet enjeu de mixité semble encore plus important pendant l'adolescence, un moment de la vie souvent marqué par le jugement et par le regard des autres. Le but de cette mixité est donc de changer le regard sur le handicap, et pour cela, Pascal Coeurboeuf a créé un projet il y a un an, les Pépites des Autres Mondes. Ce sont des badges et des autocollants qui représentent des phrases et expressions poétiques et souvent drôles prononcées par des enfants du centre loisirs pluriel.
Je pense que les Pépites des Autres Mondes, donc les formules qu'on met sur les badges et les stickers, permettent de changer le regard du handicap parce qu'elles donnent à comprendre que ces enfants peuvent être auteurs de phrases qui font réfléchir, qui font rire, ou alors qui sont réellement de la poésie pure et qui vont faire rêver peut-être les gens qui les voient.
Et vous l'avez peut-être entendu dans les deux extraits sonores de cette chronique, mais je n'étais pas seule avec Chloé et Pascal, puisque le petit Martin se trouvait lui aussi dans la salle de sieste reconvertie en lieu d'enregistrement. Il a lui aussi participé au projet des Pépites, comme l'explique Pascal.
Donc Martin, par exemple, il nous a dit une phrase récemment qui dit « Je suis pas un mec, je suis une cabane ». Et on en a fait une pépite parce que je trouvais ça très drôle, les animateurs qui me l'ont transmis aussi. Et ça m'évoquait au final tout ce monde de l'enfance où on peut se déguiser ou se créer un monde avec rien du tout, notamment se mettre par exemple sous une couverture et dire bah voilà, je suis dans ma cabane. Et donc j'en suis venu un peu à cette idée-là. Et c'est comme ça que j'ai fait une pépite où on voit un petit garçon qui se cache derrière ses couvertures et qui nous invite à rentrer dans sa cabane sous ses couvertures.
Et si le projet vous intéresse, les badges et stickers sont à retrouver sur leur site internet ainsi que dans la boutique Chouette et la librairie Tibulle à Rennes. Et l'argent récolté a pour objectif d'acheter du matériel et ou d'organiser des activités et voyages, raison de plus pour faire une bonne résolution en ce début d'année. Merci beaucoup Manon. 3 en 1, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Lola et aux intervenants d'Outre-Rennes et Loisirs Pluriel. Et merci à vous de nous avoir écoutés aujourd'hui. On se retrouve après-demain, mercredi midi 15. Bon après-midi.